En cet après-midi aux Utopiales pour discuter en cette conférence de génétique avec un thème: la génétique va-t-elle gouverner le monde? La génétique est un pan de recherche scientifique qui a beaucoup évolué ces 20 à 30 dernières années, avec différents aspects que nous allons sûrement évoquer, mais a été aussi un thème largement abordé en science-fiction. On pense par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup citer par exemple quand on parle de génétique, c'est le film Bienvenue à Gattaca, qui résume un peu les peurs, les angoisses que l'on peut retrouver quand on parle de génétique, sous les aspects éthiques, sous les aspects moraux, mais aussi sur les progrès que la science peut apporter, que la science génétique peut apporter à l'humanité. Pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai à côté de moi le généticien Richard Redon, qui travaille à l'INSERM et dont la spécialité est assez particulière. Je le laisse expliquer.
Oui, je travaille sur une maladie assez particulière qui est la mort subite cardiaque. Donc, mon travail, c'est d'essayer de comprendre si certains gènes sont abîmés, sont malades chez des patients qui meurent comme ça un jour dans la rue d'une crise cardiaque, d'une mort subite inexpliquée.
Au centre, nous avons Joël Vintrebert, qui est auteur, qui a pas mal écrit sur la génétique, sur ce que pourrait devenir le monde. Juste à côté, nous avons Emmanuel Dadoun, qui est auteur, passionné de philosophie
Et de SF
et de
surtout.
SF surtout.
Ouais.
Enfin, tout au fond, Thomas Agar, qui est auteur et bédéiste, qui vient de sortir Human Stock Exchange, qui dépeint un monde assez noir,
Ouais.
si tu peux me.
Human Stock Exchange, c'est la chronique d'un type ordinaire qui va en fait chercher à se faire coter en bourse pour améliorer sa vie, en fait, gagner plus d'argent et voir si peut réussir comme ça.
Mais avant toute chose, je m'adresse d'abord aux généticiens. Qu'est-ce que la génétique? Je veux dire, on parle souvent de la génétique, mais d'un point de vue de la recherche scientifique, peux-tu décrire les différents aspects que ce champ de recherche touche, d'une part de la part assez fondamentale, mais aussi de ses applications pratiques?
Alors, la génétique, en fait, c'est une spécialité très, très large. Et le point commun dans tous les aspects de la génétique, c'est d'analyser ce qu'on appelle l'ADN. Donc, c'est une molécule, c'est un très long filament, c'est un polymère, en fait, qui est présent dans notre corps, dans toutes nos cellules. Et la génétique, c'est vraiment. Le but de la génétique, c'est d'étudier cette molécule, de la lire. En fait, elle est composée de quatre bases fondamentales. On lit ces bases et d'essayer de comprendre, déjà d'identifier des variations sur cette molécule entre les individus et de comprendre le rôle de ces variations, soit au cours de l'évolution, donc au cours de l'histoire de notre espèce et des espèces qui nous entourent, comment les variations sont apparues, et aussi essayer de comprendre, en quoi certaines de ces variations sont associées à des maladies. Ça va être des maladies rares ou des maladies très fréquentes. Donc, en fait, la génétique, il y a deux aspects. Il y a un aspect de compréhension de cette molécule, de sa caractérisation. Donc, on est là plus sur une science un petit peu fondamentale. Il y a des applications cliniques, bien sûr. Quand on parle de maladies, on pense aux patients. Et puis maintenant, il y a un autre aspect de la génétique. On parle de génie génétique. C'est un petit peu différent. L'approche est différente. L'idée est de manipuler cette molécule. Donc, soit dans les plantes, on parle d'OGM. Soit au laboratoire pour mieux comprendre les maladies, on peut aussi modifier les gènes sur des petits animaux comme les souris pour essayer de mieux comprendre les maladies. Donc il y a un aspect théorique de connaissance et il y a un aspect un peu plus appliqué de manipulation d'organismes.
Du point de vue du scientifique, je me permets d'insister un peu plus là-dessus. La génétique, tu as vraiment défricher cela assez correctement, mais cela ne pose pas-t-il beaucoup de questions éthiques? Et la peur de la génétique vient-elle de ces applications purement de génie génétique qu'on peut faire avec les études de cartographie, par exemple?
L'aspect éthique est très important. Donc, en fait, on travaille en permanence sous le contrôle de comités d'éthique qui sont composés de médecins, de juristes, de personnes comme vous et moi, de la société, qui peuvent être nommées pour participer à ces comités et qui vont déterminer si on est en règle par rapport à l'analyse d'ADN d'individus, parce que on parle de patrimoine génétique, donc en fait la molécule d'ADN appartient à une personne, donc on a besoin de l'accord éclairé de cette personne, on a besoin que cette personne soit informée avant d'avoir le droit d'analyser sa molécule. Donc même à l'hôpital, lorsqu'il y a des tests génétiques à l'hôpital, il y a un accord du patient qui est obligatoire pour être sûr qu'on le fait dans les règles et que le patient est au courant de ce qu'on fait. Et il y a aussi des comités d'éthique par rapport à la manipulation, mais ça, vous voyez très bien tout l'aspect OGM et tous les débats qu'il y a autour des OGM et la réglementation autour des OGM. Il y a aussi une réglementation qui est la plus juridique. C'est une loi qui passe pour dire si oui ou non on a le droit de manipuler un organisme et dans quelles conditions.
Moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent tout de suite à l'esprit quand on parle de ce comité d'éthique. La première question évidente, c'est de qui il est composé, quels sont les gens qui font partie de ce comité. Est-ce que ce sont des politiques, des scientifiques, des gens qui viennent de la société civile, qui sont-ils? Donc, quelles compétences on leur prête, puisqu'ils doivent décider si oui ou non vous êtes dans la légalité, voilà, ou si vous êtes sur la ligne rouge.
Alors, d'abord, il y a une loi cadre en France, qui est la loi de bioéthique, qui est révisée très régulièrement, parce que la science avance assez vite, donc la loi de bioéthique est révisée très régulièrement pour essayer de suivre les avancées et de garder un certain contrôle sur les choses qui peuvent être faites. Et dans le cadre de cette loi, les comités doivent être composés justement à la fois de médecins, à la fois de scientifiques qui sont capables d'évaluer la portée des recherches, de juristes, bien sûr, qui sont là pour vérifier que les décisions sont en accord avec la loi. Et il y a aussi des représentants de la société civile qui sont là, justement, des personnes qui sont là pour représenter, être un panel représentatif de la société. Donc c'est un petit peu tous ces cadres qui sont là pour essayer de contrôler, de juger de l'éthique des recherches qui sont faites.
Et tu pourrais peut-être dire quelles sont les limites de ce comité, c'est-à-dire quel pouvoir il a réellement ?
Aujourd'hui, donc moi je suis généticien, je travaille au quotidien sur les ADN de patients que je ne connais pas personnellement. Donc en fait, il y a beaucoup de règles qui sont appliquées. La personne comme moi qui manipule, enfin comme les personnes qui travaillent dans mon laboratoire, oui, moi je n'ai pas du tout accès à l'identité des gens. C'est-à-dire que je travaille en aveugle par rapport à l'identité des gens. Les patients sont vus par des médecins qui ne sont pas dans le laboratoire à manipuler. Et donc, c'est un premier contrôle. C'est-à-dire que les échantillons que j'analyse sont toujours anonymes. Et ensuite, on parle de protocole de recherche dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme qui est géré par le ministère qui lance des appels d'offres régulièrement. Et donc, ils financent des programmes de recherche clinique, donc ils portent sur ces patients. Et déjà, à ce niveau-là, il y a un premier contrôle. Il y a un contrôle si, effectivement, la recherche qui est proposée correspond à l'éthique et a été validée. Et si elle ne l'a pas été, c'est un prérequis qu'elle soit tout d'abord validée par un comité avant de pouvoir être menée. Donc, il y a toute une série de contrôles qui sont là pour bien vérifier, au moins dans je parle de la recherche que je connais, on a quand même toute une série de contrôles qui sont là pour bien vérifier qu'on travaille dans les règles et qu'on est aussi sujet à la loi informatique et liberté. Il faut montrer aussi que par rapport aux données qu'on génère, ces données sont protégées, sont anonymes et que la personne qui est le patient, qui est le propriétaire quelque part des données, a la capacité de les éliminer dès qu'il le souhaite.
Oui, donc il reste propriétaire
On parle réellement de patrimoine génétique.
Son dossier, on va dire.
Donc c'est une propriété de la personne.
Ouais. En même temps, c'est curieux parce qu'on sait très bien que la matière que tu manipules, enfin que vous manipulez, elle n'appartient qu'à lui, en fait. Ce qui veut dire que vous le connaissez intimement. Vous ne savez pas qui il est, et en même temps, vous touchez exactement ce qui le détermine, quoi.
Oui.
En tant qu'individu.
C'est pas la façon dont on travaille. Vous m'entendez ? C'est bon ? C'est pas la façon dont on travaille, en fait. On travaille beaucoup avec des statisticiens, donc on travaille sur des groupes de patients. On ne s'intéresse pas forcément dans notre recherche au quotidien à l'individu. Oui. On s'intéresse à des groupes de patients qui sont des groupes statistiques. Ouais, et on va comparer des groupes de malades avec des groupes de contrôle. Et sincèrement, dans le quotidien de notre activité, l'identité des gens ne nous intéresse pas vraiment. On s'intéresse réellement à cette molécule et à des paramètres qui sont définis, qui sont ce qu'on appelle le phénotype, la maladie. Et puis, on a besoin parfois de quelques informations, bien sûr, le sexe de la personne, quelques informations comme celle-là, mais qui restent anonymes de toute façon. Et on ne s'intéresse pas dans notre recherche. C'est vraiment pas utile pour nous de connaître l'identité des gens.
Pour en revenir justement à l'ASF, est-ce qu'on peut voler ce patrimoine ? Est-ce qu'on peut usurper un patrimoine génétique ? Pour en revenir à quelque chose d'un peu plus ASF
Techniquement, on peut très bien imaginer que des données qui correspondent à la séquence de l'ADN d'un individu soient volées. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quelle est la portée de ce type d'information pour une personne ? C'est une question assez difficile à répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire de l'identité d'un individu en termes d'ADN ? Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire de l'identité d'une personne en termes d'empreintes digitales et en termes... Ouais. On est sur ce type de questions.
Est-ce que l'identité se résume justement à la génétique ? Parce que peut-être que l'identité, c'est encore...
Non, l'identité, c'est... La génétique n'est qu'un un tout petit élément de l'identité d'une personne. C'est réellement un des éléments, mais c'est loin d'être le seul élément à prendre en compte. Aujourd'hui, les risques de maladie, le premier risque de la maladie aujourd'hui, je pense que c'est de très loin la cigarette. C'est pas les gènes. Donc si on veut commencer à regarder... et à modifier des choses par rapport à des maladies, on n'ira pas toucher à la génétique en premier.
Je voulais revenir plutôt du côté de la littérature et de l'écriture. Le motif génétique en science-fiction a été largement utilisé ces 20 à 30 dernières années, voire même un peu avant. Et j'aurais voulu savoir l'avis, par exemple, de Joël ou de Thomas ou de Emmanuel sur que représente le motif génétique dans une histoire de science-fiction. Qu'est-ce qu'il porte en lui qui fait de cela une chose vraiment intéressante comme outil?
Oui, déjà le motif génétique, il a été exploré bien avant, hein, puisque qu'on pense au meilleur des mondes de Aldous Huxley, effectivement, il était déjà là et bien là, puisque on parle déjà de manipulation génétique, de clonage, hein, c'est l'idée de créer des êtres biologiquement différents pour une société qui serait prétendument meilleure. Moi, mon premier roman... J'ose à peine dire quand il a été édité, bon allons-y, c'est 1980, parlait déjà de clonage et de dopage, voilà. Donc clonage, effectivement, bon, j'étais pas là du tout la première à en parler, on le voit, bah, effectivement, Aldous Huxley, et en dehors de Huxley, d'une façon plus moderne, il y avait un auteur un petit peu déjà phare aux États-Unis qui s'appelle John Varley, qui avait déjà beaucoup exploré le thème du clonage, d'une façon tout à fait passionnante. Moi, ce qui m'intéressait déjà donc à cette époque, c'était le thème évidemment de la manipulation génétique, du corps transformé. Qu'est-ce que le monde dans lequel on vivait déjà à cette époque, moi j'ai écrit mon roman en 1979, nous réservait, puisqu'on pouvait déjà voir, si on se documentait un petit peu scientifiquement, on pouvait déjà voir se profiler ce thème du clonage, voilà. Donc le thème du double, le thème du double spéculaire, moi c'est quelque chose qui court dans toute mon œuvre, donc ça me passionnait à ce niveau-là. Mais le thème du qu'est-ce que ça peut faire de donner naissance à quelqu'un qui est un double exact de soi, bon, puisque dans le roman le biologiste qui va donner naissance à, à cette femme, c'est un double de sa femme morte. Voilà, donc il pense donner naissance finalement à un double de sa femme morte, mais finalement c'est une fille qu'il élève. Donc on a sur un plan éthique, on a finalement le roman est traversé par des problèmes absolument extraordinaires qui va se poser. J'élève quelqu'un qui est un double de ma femme, mais finalement je l'élève comme une fille. Donc on se pose tout de suite à des questions, on se confronte tout de suite.
Ça pose aussi des questions philosophiques, à savoir est-ce qu'on peut donner vie à quelque chose de mort, en fait.
Voilà.
Et ça, on peut penser à Frankenstein aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est aussi un mythe qui traverse peut-être l'œuvre.
Tout à fait.
C'est aussi la notion d'identité est là aussi importante, en fait. L'identité, elle n'est pas liée seulement au soi physique, elle est liée aussi au soi par rapport à son entourage, oui. Par rapport au regard des gens autour.
Exactement.
Qui change notre propre identité.
Exactement. C'est pas parce qu'on va ressusciter un double de quelqu'un qui est mort qu'on va avoir. Voilà.
Une figure la personne.
Voilà. Et bon, et donc ce que j'interrogeais dans ce roman, bien sûr, aussi, c'était qu'est-ce que ça allait être le monde finalement à très court terme, et qu'est-ce que ça pouvait être ce thème du clonage, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces clones. Donc évidemment, j'étais dans l'angoisse par rapport à ce monde dans lequel on allait vivre. Alors le clone, évidemment, réservoir d'organes, on y pense forcément. Le clone qui permet de donner naissance au surhomme, hein, c'est-à-dire, et ça s'appelle les Olympiades truquées, pas pour rien, puisque j'interroge le thème du sport, des Olympiades, et donc on va pouvoir faire des sportifs transformés beaucoup plus puissants, non seulement parce qu'on va les doper, hein, il y a le thème du dopage qui court dans tout le livre, mais aussi parce que on va pouvoir les cloner de façon à les rendre encore plus puissants sur un plan sportif. Donc, il y a les gènes plus, on a des sportifs qui sont des gènes plus, hein, comme le nom est clair. Et voilà, donc on a toutes ces dérives finalement qui apparaissent dans ce livre, qui interrogent finalement ce thème du clonage. Et on pourra peut-être parler plus tard finalement comment on peut interroger ce thème du clonage, de la transgénèse, on pourra parler des OGM aussi, d'une façon comme un cri d'alerte finalement, et puis comment finalement on peut aussi le voir comme une façon de transformer l'homme, de transformer le corps de l'homme, mais finalement que ça ne soit pas si maléfique que ça, mais peut-être dans un deuxième temps de la table ronde.
Justement, à partir de ce... tout n'est pas maléfique dans l'utilisation de la génétique ni dans sa compréhension. Est-ce que certaines solutions du curatif, je pense par exemple à la maladie du cœur ou des choses comme ça, ont quand même des échos positifs, reçoivent quand même des échos positifs
Je pense que vous avez tous entendu parler du Téléthon, bien sûr, et des recherches qui sont menées grâce au Téléthon. Une partie de ces recherches est justement une recherche qui est là pour essayer de faire ce qu'on appelle de la thérapie génique. Et la thérapie génique, c'est quoi ? C'est la correction d'un gène qui est muté, qui est défectueux, par une méthode d'introduction d'un nouveau gène, ou simplement par la correction de ce gène, par des méthodes de transgénèse. Donc il y a des premiers essais qui sont faits chez le chien. Il y a eu quelques essais faits à partir de cellules qui ont été prélevées chez des patients, modifiées puis réinjectées, qui montrent que c'est très prometteur. Mais c'est très prometteur pour des maladies qui sont très rares et qui sont très bien décrites et qui touchent à un gène très particulier. Donc à chaque fois, la stratégie est appliquée à une maladie dans un contexte donné avec une stratégie qui est vraiment adaptée au problème. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cadre dans lequel on commence à pouvoir imaginer en termes de médecine, utiliser une méthode de transgénèse en fait pour guérir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pas loin d'être une réalité.
Oui, on peut peut-être parler aussi. J'ai écrit un autre roman qui s'appelait Lentement s'empoisonne, qui était paru aux éditions Flammarion dans une collection qui s'appelait Quark Noir, qui était une collection qui s'appelait La science capture le polar. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, il s'agissait d'écrire des livres fondés scientifiquement, des policiers fondés scientifiquement, et qui était un livre sur justement la thématique OGM transgenèse. Et donc, ça montrait un certain nombre de dérives de grands laboratoires pharmaceutiques et la façon dont ils se servent peut-être de cobayes d'une façon pas très élégante. Mais ça mettait en scène des OGM bananes vaccinantes. Donc, on peut-être demander à notre voisin de nous parler de ces possibilités des OGM médicaux.
Les OGM, on va même sans parler de médecine, hein, on peut en parler de façon un peu plus générale. Ça reste un sujet très, très débattu aujourd'hui. Parce que le problème de l'OGM, et c'est chez les plantes en particulier, pour certaines plantes, c'est le risque d'avoir une extension de l'organisme génétiquement modifié aux dépens d'un organisme sauvage et d'avoir dans notre environnement en fait des organismes qui auront été modifiés par nous.
Stratégiquement, les sociétés qui développent ce type d'organismes génétiquement modifiés prennent comme process le fait d'éliminer les organismes vivants autour de l'organisme créé, en fait.
Il y a beaucoup de stratégies, en fait, derrière. Donc, on peut parler du but de ce type de manipulation. Au départ, il y a un but de rendre les plantes plus productives et d'augmenter le grenier du monde et de mieux nourrir les gens et de réduire... C'est quand même le je prends les deux côtés, en fait. Faut voir le pour et le contre. Deux côtés. Donc il y a d'un côté cet aspect-là qui peut être très important. Et puis après, il faut voir aussi les différentes stratégies qui sont utilisées. Donc certaines stratégies consistent à introduire un gène qui va créer une résistance à un herbicide. Et le résultat, il est lequel ? Il est de pouvoir mettre beaucoup plus de cet herbicide sur la culture et d'éliminer toutes les plantes, sauf celles qui est d'intérêt. Donc on a après, c'est très subjectif. Vous parlez de façon très objective. On a le pendant améliorer la productivité et améliorer la nutrition des populations. Et on a le pendant écologique qui peut être vu comme un pendant désastreux parce qu'on va disséminer des substances chimiques dont on ne connaît pas toujours forcément l'effet sur la santé publique. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui peut prêter à débat. On est réellement dans une problématique très complexe, et je pense que si on interroge l'ensemble des personnes devant nous, on va avoir des avis très divergents par rapport aux OGM.
Je pensais à un autre aspect aussi du travail que tu fais. Du point de vue de la cartographie, n'y a-t-il pas des risques de fichage global, ni de... On parle souvent du détail ADN, de la preuve ADN dans le cadre, par exemple, que je pense du Polar, de toutes les séries et même des enquêtes policières dans les médias. Mais n'y a-t-il pas un risque de fichage total et complet de la population ? Je pense par exemple au gouvernement qui a augmenté les capacités de fichage des populations par rapport à des crimes et délits qu'ils ont commis, qui à la base était une gamme vraiment très réduite de personnes, dont l'échantillonnage augmente au fur et à mesure des années et des décrets qui viennent.
Je pense que, bien sûr, il y a un risque, mais la problématique existait déjà. Enfin, dans notre société, la problématique existe déjà sur les empreintes digitales, sur la lecture biométrique au niveau des yeux. Je ne sais pas si vous savez, mais vous allez aux États-Unis, on vous fait une mesure au niveau des yeux, qui est une mesure très spécifique d'un individu, et c'est quand même une trace très précise d'identité qui est stockée par des lorsqu'un individu pénètre ou sort du territoire. Donc cette Oui, en effet, il y a un risque d'utilisation d'une information dans un but. Donc ça, ce but, il est présent. Mais le risque n'est pas spécifique de la génétique. On a un risque qui existait déjà, qui prend de l'ampleur parce que plus on avance, plus on a des informations et plus on se dit que ce risque peut avoir une certaine... avoir des conséquences, mais c'est un risque qui est déjà présent dans notre société.
Et en l'occurrence, le risque, c'est de perdre la liberté, quoi. Enfin, c'est... Donc c'est justement ça que ça pose. Enfin, il y a ça qui est sous-jacent, c'est quid de la liberté. Enfin, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Si on est tous fichés, alors.
Je donne des cours à des étudiants en médecine, en fait, et je leur donne souvent un exemple. C'est l'exemple des assurances, qui aujourd'hui, lorsqu'on veut faire un prêt dans une assurance pour acheter une maison, ou on a un questionnaire médical assez précis, assez gênant. Moi, je le trouve personnellement assez gênant sur toute son histoire et tout son dossier médical. On peut très bien imaginer la même chose un jour sur des données génétiques, avec l'utilisation de marqueurs génétiques qui vont être porteurs d'un risque et l'utilisation de ce risque pour calculer des polices d'assurance. Là, on peut considérer qu'on touche à la liberté individuelle et à la propriété au patrimoine génétique avec une utilisation extérieure de cette information qui peut dévier de ce qu'on pourrait considérer comme une pratique de liberté.
Et est-ce qu'on n'a pas un risque avec le fichier ADN ? Puisqu'il y a fichage ADN policier.
Vous savez, même nous, chercheurs, on a beaucoup de mal à interpréter la séquence ADN aujourd'hui.
Justement.
Je veux dire, c'est un élément...
Je crois que ça a été abandonné aux États-Unis, je ne sais pas, mais en Angleterre, en tout cas, ça a été abandonné, j'en suis sûr.
Appelle, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une empreinte biométrique au même titre qu'une autre mesure, en fait. Mais c'est uniquement une empreinte technique. C'est utilisé comme une empreinte technique. On a des marqueurs que portent nos parents, que portent nos grands-parents, qui sont... Pas, chaque marqueur n'est pas du tout spécifique, c'est la combinaison d'un grand nombre de marqueurs qui va permettre d'identifier avec une probabilité très forte, on parle toujours de probabilité, un individu par rapport aux autres individus. Donc c'est une technique d'identification qui ne diffère pas beaucoup dans son principe d'une technique d'identification des empreintes digitales, si vous voulez. On est juste sur une technique qui est peut-être plus objective par rapport à la mesure, mais l'idée est la même. Je pense qu'à terme, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, et je pense que c'est une réflexion que la société doit avoir, sur l'identification de variations génétiques qui vont être porteurs de risques pour des maladies. Quelle est la protection à mettre en œuvre pour ce type de données, pour préserver la liberté individuelle par rapport au fait de porter ce type de facteurs de risque, mais qui sont toujours des risques de probabilité. On n'est jamais dans... La génétique, si vous voulez, moi je compare ça je dirais que c'est de l'archéologie moléculaire. C'est-à-dire que par la génétique, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le passé, on ne regarde pas l'avenir. Par la génétique, on essaie de comprendre, on regarde quels sont les paramètres.